Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, soyez les bienvenus sur France Inter, c'est l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Comment le Monde, quotidien de référence réputé pour son sérieux et son exigence, s'est-il retrouvé à publier chaque dimanche matin un long article de sexologie? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, à l'heure de la messe, vous saurez tout sur la position du missionnaire qui ne marche pas et sur cet orgasme qui ne vient pas. Car telle est Maya Mazorette, fine plume et fine lame, trempée dans l'encre d'un féminisme gorgé de littérature scientifique. Les femmes ne sont pas que des trous, les hommes ne sont pas que des excroissantes pénétrantes, nos plumards sont à mourir d'ennui et d'idées reçues. Écrire sur la sexualité, c'est entamer une conversation intime avec le lecteur. C'est réfléchir à nos corps, mais aussi à nos héritages. C'est affronter une cohorte d'injonctions séculaires, aujourd'hui crépusculaires.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Eh bah oui, séculaire et crépusculaire, ça rime. Bonjour Maya Mazorette.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Moi ça va très bien, je suis très contente d'être là.
Voilà, Maya Mazorette qui nous arrive de l'autre bout du monde parce qu'elle vit aux États-Unis. Elle publie simultanément deux livres, Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues. Ça c'est aux éditions La Martinière. C'est une compilation, un choix, on va dire, hein, de vos papiers publiés le dimanche matin dans Le Monde, agrémentés de notices et d'illustrations. C'est fort joyeux à regarder avant même d'être lu, c'est un joli objet. Et puis il y a un autre drôle d'objet. Alors, c'est une sorte de double livre, hein.
Je
raconte au lecteur, si vous nous regardez en vidéo, je vous le montre aussi. Alors, ça c'est publié chez Anne Carrière. Si on le prend dans un sens, le livre, hein, le titre est « Sortir du trou » par Maya Mazorette et « Échapper à notre vision étriquée du sexe ». Si on le prend dans l'autre sens, il y a une autre couve. Après « Sortir du trou », c'est « Lever la tête et inventer un nouveau répertoire érotique ». On
va
en parler ensemble le vendredi. Il y a Bruno. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Sonia.
Voilà. Et puis il y a aussi évidemment notre Madeleine, la deuxième Madeleine de 2020. Tintintin. Là je vous préviens, ça va être un souvenir de télévision, tout ce qu'il y a de plus sexe, mais aussi tout ce qu'il y a de plus beauf. Si vous retrouvez le nom de cette émission pourrie qui faisait un tabac quand j'étais gosse, eh bien je vais vous offrir le livre de François Morel, un bijou d'écriture. Allez, tous à vos mails, l'instantm@radiofrance.com. Vous êtes prêts? On y va.
Et on est encore là en plein dans l'hypocrisie. C'est-à-dire des femmes nues, il y en a partout. Au début, on a reçu des lettres du style, par exemple, j'ai un grand garçon qui a 13 ans. Monsieur, quand vous passez la plémette, je lui mets la main devant les yeux. Bon, le pauvre môme, je veux dire, il n'est pas sorti de l'auberge.
Comment s'appelait sa première émission à ce monsieur qui parle là? C'était la télévision 1979-1980. Comment s'appelait sa première émission? L'instant M à radiofrance.com. Oui, petit conseil, si vous voulez arriver les premiers, il vaut mieux Internet. Spéciale dédicace à notre auditrice Régine, qui vit en Ille-et-Vilaine et qui, pour participer au jeu de la semaine dernière, nous a écrit une lettre sur du papier, pliée, timbrée, postée. Votre réponse, Régine, est arrivé si longtemps après les autres que, évidemment, vous avez perdu. Mais nous avons trouvé ça si touchant que nous vous offrons à vous aussi un cadeau. Cette semaine, Bruno Donnet, c'est un tweet signé de la main du ministre de la Culture, Franck Riester, qui vous a fait bondir et ça donne une chronique un peu inhabituel le vendredi matin dans votre bouche, oui. Ici, dans l'instant M.
Sanson, c'est la grève. Alors ça s'est passé mardi, Sonia, le jour du 5e anniversaire du massacre qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo, le jour où, ici même, à Radio France, plusieurs émissions devaient être consacrées à l'événement. Seulement, voilà, si je vous dis « devait », c'est parce qu'en raison du mouvement de grève qui affecte les antennes depuis maintenant 39 jours, certaines de ces émissions n'ont pas pu être diffusées. C'est donc dans ce contexte que le ministre de la Culture s'est fendu sur Twitter d'un saisissant message qui disait ceci, deux points, ouvrez les guillemets, jour anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo, quelques grévistes de Radio France font annuler sur les antennes du service public des émissions traitant de la liberté d'expression et de la presse, incompréhension et indignation. Voilà. Alors je dois vous dire qu'en lisant ça, c'est moi qui ai ressenti indignation et incompréhension. Indignation parce qu'en choisissant de profiter du jour anniversaire, de l'assassinat de nos confrères, pour enfin sortir du silence dans lequel ils se tenaient au sujet de la grève depuis 36 jours, le ministre de la Culture assimile insidieusement grève et indignité. Mieux que ça, il sous-entend qu'ici, quelques grévistes auraient la volonté d'entraver la liberté d'expression. Mmh. Sérieusement, quand on sait les liens, les affinités électives qui existent entre France Inter et Charlie Hebdo, quand on se souvient que Philippe Val a dirigé ces deux maisons, que notre regretté Bernard Maris chroniquait à la fois dans le journal et à ce micro, qui peut croire à une saloperie pareille? Qui peut accepter que dans un élan purement démagogique, un ministre de la Culture choisisse d'opposer Radio France à Charlie et de faire passer des salariés amoureux de leur métier et inquiets pour leur avenir pour des gens indignes et ennemis de la liberté de la presse? V'là pour l'indignation et pour l'incompréhension maintenant. Eh bien, je n'ai pas compris d'abord qu'un ministre de la Culture foule ainsi au pied un droit fondamental dans une démocratie, le droit de faire grève et de dire quand on n'est pas d'accord. Et puis, je n'ai pas compris non plus la forme de hiérarchie qu'il a choisi d'établir. Pourquoi, en effet, s'indigner au bout de 36 jours, uniquement parce que l'équipe de Charlie a été très momentanément privée d'antenne? N'est-il pas tout aussi regrettable que ceux qui aiment écouter France Culture, France Musique, ou que les millions d'auditeurs qui dans les régions sont attachés aux antennes de France Bleu soient ainsi privés de leur radio et de l'esprit de service public auquel ils sont attachés depuis bientôt 6 semaines? Enfin, je ne comprends pas la forme de désinvolture, la désinvolture totale qui consiste à réagir à un mouvement de grève aussi massif par un simple tweet. 229 caractères balancés comme ça, bien confortablement planqués derrière l'écran de son téléphone portable pour dire, entre la poire et le fromage, qu'on est indigné. Alors voilà, cher Franck Riester, je m'adresse à vous qui nous écoutez, peut-être, pour vous dire ceci. Vous fûtes, il y a quelques années, lorsque vous étiez dans la conquête du pouvoir, un parlementaire courageux, qui n'hésita pas à s'opposer à son propre camp, à l'époque il s'appelait l'UMP, pour dire publiquement votre soutien à une mesure du camp d'en face, le mariage pour tous. Et bien maintenant que vous avez conquis de grandes responsabilités, maintenant que c'est vous qui tenez les manettes et qui infligez des potions amères à Radio France en imposant des réductions budgétaires sans précédent, continuez donc à faire preuve de courage et venez. Venez ici, monsieur le ministre, venez sur France Inter, venez dans ce studio, et plutôt que de mettre en cause la dignité de tous ceux qui s'inquiètent simplement pour l'avenir de la radio et du service public, venez donc nous montrer comment vous exprimez la vôtre. Bonne journée.
Bah, bonne journée aussi, Bruno, et merci à réécouter sur franceinter.fr. Papier qui sera beaucoup réécouté, à mon avis. Nous avons un gagnant, il s'appelle Fabrice. Il a reconnu Stéphane Collaro. Maya Mazorette, elle était peut-être trop jeune pour Stéphane Collaro. Et il a reconnu sa première émission, c'est le Collaro Show.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Mon invitée s'appelle donc Maya Mazorette. Elle publie 2 livres, je l'ai dit, Sortir du trou, suivi de Lever la tête, ça c'est aux éditions Anne Carrière, et puis Le sexe selon Maya, qui compulse, on va dire, une partie de ses longs papiers publiés le dimanche matin dans le journal Le Monde. Ce ne sont pas de simples articles qui dépeignent la sexualité au 21e siècle. Ce sont, Maya Mazorette, aussi des conseils pratiques, mêlant anatomie, physiologie, psychologie et shopping. Car il y a des conseils shopping dans vos articles, marques et prix, des accessoires qui viennent agrémenter l'amour. Ma première question, elle est plutôt sur votre travail de journaliste. Qu'est-ce qu'il y a de journalisme là-dedans? Car il n'y a ni enquête, ni reportage, ni témoignage. C'est Maya qui vous parle.
Oui, mais c'est pas pour ça que c'est des informations qui viennent de ma pure imagination, même si ce serait drôle. Non, en fait, il y a beaucoup de savoirs sexuels qui sont produits partout dans le monde. Il y a beaucoup de chiffres. Donc, il y a des équipes d'études de genre, d'études gays, d'études pornographiques, des urologues, des gynécologues, des psychologues, qui, à longueur d'année, en fait, publient dans des revues scientifiques des chiffres. Ce qui me permet, moi, de dessiner en fait un portrait de la sexualité des personnes dans le monde, mais plus particulièrement des Français, qui colle au réel et pas forcément aux caricatures de ce qu'on pouvait voir à la télé peut-être il y a encore 10-20 ans, qui était seulement les libertins, le BDSM. Moi j'ai envie de parler.
Mais c'est votre marque de fabrique, cette littérature académique qui est très présente dans vos articles.
Mais oui, parce que ça permet en fait de pas justement aussi projeter des fois sa vie sexuelle à soi sur celle des autres, et c'est effectivement une tendance qu'on a tous, qui est de dire voilà, moi je fais ça au lit, donc tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit avoir les mêmes goûts. Non, pas du tout. On voit bien que y a une grande amplitude du répertoire, de plus en plus. Et puis il y a des personnes qui sont pas du tout comme nous, il y a des personnes qui ont pas envie de faire l'amour et c'est très bien aussi. Il y a des personnes qui font l'amour jusqu'à 90 ans ou 120 et c'est
je
très
vous
bien
cite
aussi.
Maya Mazoret, cette littérature académique, elle vous permet d'écrire que les problèmes sexuels d'un tiers de la population sont les problèmes de tout le monde, que les problèmes sexuels des hommes sont les problèmes des femmes, que les problèmes sexuels sont rarement étanches. C'est-à-dire que vous expliquez bien dans l'un de vos papiers que les problèmes sexuels déteignent sur tout le comportement social d'un individu. Donc on est là au cœur d'une question cruciale et que c'est également l'inverse, c'est-à-dire que tout un tas de problèmes d'ordre physique ou psychique déteignent sur la sexualité.
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à faire avaler parce qu'il y a cette idée, encore aujourd'hui, que la sexualité n'appartienne pas au monde, que la chambre à coucher soit complètement étanche, alors même qu'on voit bien que, par exemple, le sexisme, l'homophobie se retranscrivent dans nos pratiques et que des fois, quand on dit justement, voilà, les femmes sont passives au lit, les femmes ne prennent pas l'initiative. C'est aussi pour dire que quelque part, dans leur vie, des fois intellectuelle, dans leur vie professionnelle, ce sera normal de leur donner un rôle de second plan. Donc c'est vraiment un travail féministe, vous le disiez au début. Je suis journaliste, mais je suis aussi chroniqueuse, ce qui me permet de faire valoir des points de vue. Et donc en tant que femme, moi j'ai aussi envie de défendre mon beefsteak, ma sexualité et ma dignité. Voilà. Alors, mais aussi celle des hommes, évidemment.
Vous l'écrivez, les femmes en ont marre d'être culpabilisées pour leur soi-disant manque de désir sans que les hommes ne se remettent en question. Vous le dites, l'homme est un objet de désir comme les autres.
Absolument.
Et il n'en a pas assez conscience.
Exactement. À mon avis, c'est le gros chantier des années 2020. C'est ma boule de cristal qui me l'a dit. Parce que là, on a beaucoup parlé en fait du corps des femmes ces 10 dernières années. On a vraiment parlé beaucoup du clitoris, et tant mieux, hein, il faut. Donc avec une sexualité féminine qui est à la fois à l'intérieur avec le vagin et à l'extérieur avec le clitoris. Maintenant, il faut absolument faire la même chose avec les hommes, qui eux aussi sont amputés sexuellement, parce qu'on dit toujours le sexe des hommes, c'est le pénis. C'est faux, c'est absolument faux. Là, on oublie les testicules et la prostate. Et si on veut vraiment faire jouir un homme pour lui donner des super orgasmes, des orgasmes qui sont plus longs et plus intenses et plus profonds, il faut les stimuler à l'intérieur et à l'extérieur, donc comme les femmes.
C'est ça qui est extrêmement intéressant. On va en venir à votre injonction, sortir du trou. On va en venir. Mais avant de réfléchir à ce que c'est qu'une femme réduite à ses orifices, on peut vous objecter que les hommes eux-mêmes ne sont aussi découpés en morceaux. Et vous l'écrivez, vous le reconnaissez, les hommes eux-mêmes aussi sont démembrés. Ils sont réduits à leurs membres pénétrants, à leur extroissance pénétrant, au pénis.
Oui, et je trouve ça vraiment intéressant que de plus en plus, en fait, on remette le corps des hommes au centre des débats parce qu'il a longtemps, en fait, été évacué. Et c'est, en fait, du côté de la marge qu'on peut interroger la norme. Et c'est vrai que les hommes se disent, moi, je suis un petit peu, quand on dit, par exemple, la déclaration des droits de l'homme, c'est que l'homme, c'est neutre. Non, c'est pas neutre. Et là, effectivement, même au niveau de l'anatomie, il faut réussir à poser des questions qui sont, pourquoi est-ce qu'on dit, par exemple, que le sexe des hommes, c'est leur pénis, ou alors, pour la blague sur les positions anatomiques standards, que le pénis est toujours en érection.
Oui,
ce qui est rigolo quand même.
Évidemment. Un mot aussi avant d'en venir à ce livre Sortir du trou. Vous expliquez que les codes du X ont tout envahi. Envahi et que nous en sommes cernés. Envahi au point qu'on ne les voit même plus et qu'on en a peut-être même pas conscience.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi retourner cette formule. Comme on le disait tout à l'heure,
les codes du X, ça veut dire les codes de la pornographie.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi que les codes du quotidien influencent la pornographie, parce que souvent, en fait, on accuse la pornographie de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de problèmes, ne nous leurrons pas, et aussi que l'âge moyen, là, en ce moment, c'est 15,4 ans pour le premier visionnage de pornographie, et ça peut commencer, effectivement, à 9, 10, 11 ans. Mais ces fameux codes pornographiques, ils viennent pas nulle part. C'est pas les pornographes qui les ont inventés. C'est aussi les codes de la société. Donc c'est les codes d'un masculin triomphant qui est effectivement réduit au pénis, où on voit rarement, par exemple, les acteurs porno. C'est aussi des violences sexuelles qu'on a beaucoup érotisées. Moi, j'ai grandi avant le règne de la pornographie. Et on disait que c'était meilleur quand ça faisait un peu mal. On disait que voilà, pour rigoler, Oli, fallait pimenter sa vie sexuelle. Et éventuellement, s'étrangler un petit peu, se frapper un petit peu. Donc moi, je serais un peu, alors je suis très critique envers la pornographie, mais je rappelle que la pornographie, c'est pas un monde à part qui nous influencerait sans qu'on, nous, on puisse l'influencer en retour. Et puis maintenant, on voit qu'il y a évidemment des féministes qui font de la pornographie éthique, féministe. Et audio d'ailleurs.
Alors, le propre de la pornographie, c'est de réduire la sexualité, écrivez-vous, au management des orifices. Et notamment des orifices de la femme. Le fameux trou. Nous ne serions qu'un trou, un trou qu'il faudrait combler. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime énormément dans votre travail, Maya Mazorette, c'est tout votre travail sur le langage. C'est quelque chose qui revient dans beaucoup de vos papiers du Monde, mais qui revient aussi fréquemment dans le livre. Vous dites souvent, il faut réparer le langage. Il faut réfléchir aux mots qu'on utilise. Tous les mots de la sexualité sont de l'ordre de la pénétration. Il faut fourrer, il faut combler une femme, c'est-à-dire qu'il faut combler un vide.
Oui, c'est ça.
Réparer le langage.
Exactement. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup heurté quand j'ai grandi. Oui. Je le raconte d'ailleurs dans le livre. C'est cette idée que si on... Un trou dans le dictionnaire, c'est un espace vide. Et que moi, là, tel que je vous parle actuellement, mon vagin n'est pas un espace ouvert à tous les vents. Et aussi, du coup, un espèce de déni du sexe dans sa totalité, de la musculature, d'un vagin, même si on parle du vagin, des nerfs, et l'idée que, évidemment, si c'est un espace négatif, si c'est un espace vide, alors c'est pas très grave de le prendre, c'est pas très grave de rentrer dedans, c'est ce que je dis. Si on est un trou,
il n'aurait même de sens qu'une fois rempli.
Voilà, exactement. Et que du coup, c'est pas juste une question sexuelle, c'est une question aussi de personnes en général et d'intégrité physique. Si les femmes sont vides à l'intérieur, alors effectivement, ça va contaminer aussi la vie professionnelle, ça va aussi dire qu'elles doivent toujours être comblées, qu'il va toujours leur manquer quelque chose, qu'elles vont manquer de confiance en elles. Et que les hommes vont pouvoir investir naturellement cet espace, parce que dans la nature, les femmes auraient besoin comme ça que quelqu'un vienne les investir, que quelqu'un vienne parler à leur place, par exemple, ou prendre toute la place dans le métro. Donc des problématiques dont on entend beaucoup parler en ce moment, et à juste titre.
La nature est bien faite, écrivez-vous, Maya Mazorette. Les femmes doivent être pénétrées sous prétexte qu'elles ont un vagin. Et vous écrivez là, noir sur blanc, « Repose en paix, concept de sexualité naturelle ».
Oui, c'est intéressant parce que il y a cette sexualité qu'on emploie aujourd'hui pour se faire plaisir. Bon, la plupart du temps, quand on a des rapports sexuels, c'est pas pour faire des bébés, c'est pour se reposer, c'est pour oublier qu'on a la migraine, c'est pour faire plaisir au conjoint, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, on utilise comme technique pour se donner du plaisir une technique qui est avant tout reproductive. Un rapport sexuel, normalement, tant qu'on veut se donner du plaisir, ça pourrait être une masturbation partagée, ça pourrait être un cunnilingus, ça pourrait être avec des sextoys.
Et tout ça, c'est absolument aussi légitime. Une pénétration, une éjaculation.
Oui, c'est ça. Réparer le langage, c'est aussi dire qu'un rapport sexuel, justement, ça s'écrit pas au singulier, c'est pas un rapport sexuel, c'est des rapports sexuels avec le corps en entier, avec moi j'ai rien contre la pénétration évidemment, mais dans ce cas-là pourquoi pas la pénétration des hommes par les femmes, pourquoi être toujours hétérosexuel, pourquoi le faire forcément avec un conjoint unique, là on voit l'explosion du polyamour qui commence à arriver. Et puis les costumes, et puis les sextoys, et puis les fiascos, et puis rigoler un petit peu aussi, parce que quand on fait toujours la même chose, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, on déprime, et moi j'ai envie que les gens soient heureux.
Vous le dites, notre sexualité contemporaine est une pyramide de nullité. Voilà. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Le sexe, selon Maya, est paru aux éditions de La Martinière, et donc sortir du trou, mais lever la tête, il y a les deux, c'est chez Anne Carrière. Merci beaucoup Maya Mazorette. J'espère que vous reviendrez en France de temps en temps parce que vous vivez en ce moment aux États-Unis. À très bientôt.